Radio Kapi.
À la une, le décès de l'ancien conseiller spécial du maréchal Mobutu, Honoré Ngbanda Nzamboko, est mort hier au Maroc des suites de maladies, rapporte des sources familiales, dont ce journal son parcours politique. Difficultés d'approvisionnement pour les populations du Bazouélé qui fréquentent la nationale numéro 4. L'alerte du sénateur Papi Bazeko en vacances parlementaires à Bouta. Il plaide pour la relance urgente des travaux de réhabilitation de cette route. Vous l'entendrez. Et puis, l'invité de ce matin, Constantin Nonon Lutula, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, libéré de la prison Makala après 20 ans de détention dans l'affaire assassinat Mzé Laurent Désiré Kabila, il exprime sa gratitude au président Tshisekedi et demande d'être rétabli dans ses droits. Avant de développer ces titres, sachez tout d'abord que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis hier en fin de soirée à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le président en exercice de l'Union africaine est allé participer aux funérailles officielles de son homologue tanzanien John Magufuli, décédé le 17 mars dernier des suites des problèmes cardiaques. Une dizaine de chefs d'État sont annoncés à Dodoma pour participer aux obsèques du président tanzanien. Madame, Messieurs, bonjour. Honoré Ngbanda n'est plus. L'ancien conseiller spécial du maréchal Mobutu Sese Seko est mort hier dimanche à Rabat au Maroc des suites de maladies, d'après les sources familiales. Depuis la chute du régime Mobutu en mai 1997, Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba s'était réfugié en France où il vivait avec sa famille. Retour sur son parcours politique avec vous, Julien Nyamweni.
Honoré Ngbanda est né à Lissala le 5 mai 1946 dans la province de l'Équateur. Il fait ses études primaires chez le missionnaire catholique, le père de Skate, à la mission catholique de Robi dans la même province. Il poursuit ensuite sa formation au petit séminaire de Bolongo à Lissala. En 1972, il obtient sa licence en philosophie avec la mention distinction et s'envole pour la Belgique pour entamer un doctorat à l'université de Louvain. En 1976, il est affecté à l'ambassade de la RDC à Bruxelles en qualité de premier conseiller et de directeur du Centre culturel du Congo en Europe. En 1982, il est envoyé en Israël avec rang de ministre conseiller pour rouvrir la mission diplomatique du Congo à Tel Aviv. En 1983, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC. Deux ans plus tard, il devient administrateur général de l'Agence nationale des documents. En 1990, il est conseiller politique du chef de l'État. Ensuite, il devient ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans le gouvernement d'Étienne Tshisekedi. Il est reconduit au même poste dans le gouvernement de Bernardin Mungulu-Diaka, puis dans celui de Jean-Gosa Karlibonde. Ses détracteurs l'accusent d'être le responsable d'un massacre d'étudiants à Lubumbashi le 11 mai 1990. Il lui est également attribué le massacre du 16 février 1990. Il avait toujours récusé ses accusations.
Justice. La peine de mort, c'est la sentence prononcée à l'encontre du sergent Mato Nantsimba Charmant. Ce policier avait tiré et tué un passant dans la commune de Barumbu, ici à Kinshasa, le dimanche 16 mars dernier. Cette sentence a été prononcée samedi 20 mars lors d'une audience en matière répressive au premier degré, siégeant en procédure de flagrance devant la maison communale de Barumbu, le compte-rendu d'Enoch Mato Ndomvuezolo.
Des deux policiers arrêtés après le décès par balle de Baloukidi Franck alias Fola, aucune charge ne pesait sur le sergent Lubunga Kachala qui a été directement relâché par la composition. Mato Nantsimba a été reconnu, lui, coupable de meurtre et l'incitation des policiers à commettre les actes contraires à l'exercice militaire. Il écope de peine de mort et devra payer à la famille du disparu la somme de 50 000 dollars américains. Pour Pierre Kaninda, avocat de la partie civile, le prononcé a été satisfaisant à moitié. Il sollicite également le retrait des policiers appelés à Kinshasa ou Djana.
Nous sommes satisfaits par rapport à la peine qui lui a été donnée. Mais en tant que partie civile, nous ne sommes pas satisfaits par rapport au délit
DI qui nous ont été donnés et le DI représentant 50 000 dollars alors que nous avons postulé pour 1 500 000 dollars américains payables en francs congolais.
Maître Dudené Lokolé, avocat des prévenus, parle du sentiment mitigé après le prononcé du jugement.
Oui, nous sommes à 50% satisfaits de la décision du tribunal parce que l'un de mes clients vient d'être acquitté. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec la décision du tribunal est que nous avons eu à faire voir au tribunal que l'acte commis par les prévenus qui vient d'être condamné peut être qualifié à l'homicide involontaire.
De son côté, le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, dit prendre les mesures afin de faire cesser le barbarisme des policiers dans sa juridiction.
Je vous le disais en titre, la population de la province du Bazouélé fréquentant la nationale numéro 4 éprouve des difficultés pour s'approvisionner sur cette route d'intérêt national. C'est le sénateur Papi Bazeko, en séjour à Bouta dans le cadre de ses vacances parlementaires, qui alerte les autorités et plaide pour la relance de toute urgence des travaux de réhabilitation de cette route qui risque de disparaître, affirme le sénateur Papi Bazeko. Il a été joint depuis Bouta par Richard Junior Kamunga.
Là où la province s'approvisionne régulièrement par les opérateurs économiques qui viennent de l'Est, notamment l'Ituri. C'est la route nationale numéro 4. L'état dans lequel cette route se trouve, c'est impraticable. Et avec la reprise de la pluie, déjà l'entretien de la route ne s'est pas fait l'année passée. Imaginez-vous avec les 4x4 qu'on n'arrive pas comme ça à rouler. Et qu'en est-il maintenant de gros véhicules qui doivent comme ça prendre ce chemin-là, mais ça pour arriver à approvisionner la ville de Bouta. Il y a des endroits comme ça au Congo, notamment le Bazouélé, là où je me trouve, qui sont pas concernés, n'est-ce pas, par la politique même de notre gouvernement au niveau national. Lorsque déjà il y a rareté des véhicules pour approvisionner la ville, l'impact économique est véritablement senti. Mais du coup aussi, le social est bousculé. Lorsque au niveau de l'intérieur, les conditions de vie ne sont pas, la plupart de la population pense que pour trouver le mieux vivre, c'est d'aller à Kinshasa. Là, je suis en train de vous parler pour interpeller déjà l'équipe gouvernementale qui va faire son entrée dans quelques jours. Les animateurs qui vont être désignés, qui puissent réellement se mettre au travail. Pas travailler puisqu'on va préparer les élections demain, mais travailler pour que le pays soit réellement servi.
Dans la province du Tanganyika, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, le bac de Niemba est remis en service. Nous sommes à 135 km sur l'axe routier Kalemie-Nyunzu. L'opération de dépannage s'est terminée sous la joie des nombreux usagers de la route. Cette route, donc Kalemie-Nyunzu, 13 véhicules ont réussi vendredi même la traversée de la rivière et ont poursuivi leur route. François-Xavier Mibé, reportage.
À ces 13 véhicules, évacués quelques heures après le dépannage du bac jusque vendredi soir, 17 autres viennent ce samedi de réussir la traversée de la rivière Lukuga et l'opération se poursuit. L'équipe de mécaniciens en provenance de Kalemie a réussi à porter un secours décisif. Une opération qui a permis au capitaine du bac de localiser la panne, Kashinda Katuku. La panne est partie du verret de l'automobile, ensuite du gouvernail et de l'hélice. Les bourrages se trouvant à l'intérieur ont cédé. Les mécaniciens ont tout dépanné. Dieu merci, nous avons repris les services.
Le temps de dépannage n'a pas été clément pour certains, comme d'autres usagers de la route, restés 2 semaines durant à Niemba. Samuel Safari, agent d'Epikagel.
De farine de maïs là, qu'on a amené vers Kiambi et vers Manono. Il y a quelques sacs qui sont pourris, mouillés aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes contents de traverser.
Un malheur qui ne vient pas seul sur la voie avant d'atteindre la destination.
On a encore un petit problème là qui nous reste de la route. Ça prend même 1 kilomètre. Si c'est une fois ça pleut, c'est tout un problème pour traverser cette trajectoire là.
Kalemie, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
À Bandundouville, les enseignants des écoles de la 37e KDC disent en avoir marre et disent non à EcoBank. Dans une lettre adressée samedi au directeur provincial du service de contrôle et de la paix des enseignants Sekope Kwilu 1 et dont une copie est parvenue à Radio Kapi hier, ils demandent que leur salaire soit déplacé vers une autre banque de la place. Ces enseignants accusent EcoBank de retard récurrent dans l'effectivité de la paix et cela sans numéro des comptes bancaires. D'autres détails avec avec Irène Boma.
Dans cette correspondance adressée au directeur provincial du service de contrôle et des payes des enseignants, CECOPE en sigle, ces enseignants affirment avec regret qu'ils sont payés toujours avec un retard de plus de 3 semaines par la banque EcoBank. En outre, ces professionnels de la CRE redoutent plusieurs risques sur le fait qu'ils ne possèdent même pas, selon eux, des numéros de compte bancaire chez EcoBank. Au regard de toutes ces irrégularités, ces enseignants des écoles de la 37e KDC de la ville de Bandundu, précisément de l'EP Molende et de l'Institut de Molende, sollicitent auprès du directeur provincial du CECOPE les changements d'adresse de leur paye. Bernard Mabanza est le représentant de ces enseignants. Il explique.
Le retard que nous déplorons ici, c'est le mois de février et cela se fait chaque fois dans notre paye. On touche 3 semaines plus tard. Nos difficultés, c'est quoi? Nous n'avons même pas de numéro de compte bancaire et il n'y a pas de preuve qui va témoigner un jour si l'EcoBank n'a pas payé ici. On considère comme c'est une paye manuelle. C'est pour cela nous sollicitons à qui le droit de nous faire quitter l'EcoBank à une autre banque de la ville.
Nous avons tout fait pour avoir la réaction de l'EcoBank à ce sujet, mais cela n'a pas abouti. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Entre-temps, au Maniema, nous apprenons que 2 écoles de la sous-division de l'Ubuntu n'ont toujours pas repris leurs activités scolaires. Le président de la société civile locale qui donne l'information cite les écoles Kolomboa et Guyeni. Kizungu Njadi accuse le sous-coordonnateur des écoles catholiques de l'Ubuntu d'être à la base de cette situation. Selon lui, les commissions intempestives des enseignants et dirigeants mettent à mal le fonctionnement de ces écoles. Kizungu Njadi, président de la société civile de l'Ubuntu, explique la situation au téléphone de Florence Kizalunga.
Les élèves de l'Institut Kolomboa Option Construction sont soulevés contre la procédure qui a été mise en pratique par les sous-coordinateurs des écoles conventionnées catholiques qui a décommissionné un enseignant répondant au nom de Abbé Diamissi de cette section en les remplaçant avec un pédagogue. C'est ce qui n'a pas plu aux élèves et ils se sont soulevés contre cette mesure. Ils ont endommagé beaucoup de choses. Entre autres, le bureau de la préfecture de la cité Kolomboa, domicile sous-coordinateur, ainsi que le domicile de l'intégrateur qui avait inspecté leur enseignant, le tâchant d'être fausseur. La situation n'est pas encore décantée parce que c'est la justice qui est en train de se trouver dessus. À la date 18 mars, la même situation est encore dormi au niveau de l'Institut Guyen. Et quand les conseillers a décommissionné le directeur des études de cet institut, à la place par les autres, et c'est une méthode n'en pas aussi plus les élèves, et ils se font soulever.
Et notez que tous nos efforts pour joindre le coordonnateur, l'incriminé, n'ont pas abouti. L'association Phoenix de Bukavu s'implique dans l'hygiène corporelle des filles qui vivent dans la rue et celles en situation difficile. C'est ce qui justifie l'atelier de 2 jours, soit vendredi et samedi, à l'Institut français de Bukavu. C'est en marge des activités du mois de mars. Rachel Kiesse a pris part à cette activité. Elle nous fait le point.
Cet atelier a pour objectif d'amener les jeunes filles à prendre conscience des risques qu'elles courent avec une mauvaise hygiène. C'est ce qu'affirme Priska Kanga, coordinatrice de l'association Phoenix.
Et nous avions voulu travailler avec les filles de rue trop exposées et aussi elles sont en train d'augmenter du jour au lendemain. Alors c'est déjà un danger pour toute la population s'il n'y a pas des gens qui les soutiennent, et surtout sur les sujets tabous comme l'hygiène corporelle.
Quels sont alors les risques que courent ces filles et quels conseils ont-elles reçus des formatrices? Madame Kiabou Moutoual et Odette en parle.
Les risques qui courent les filles avec une mauvaise hygiène, c'est les infections urinaires, aussi des maladies contagieuses comme par exemple la gale, la teigne. Nous les avons expliqué concernant surtout les risques des infections urogénitales. Les conséquences qui peuvent survenir au cas où elles ne font pas bien leur hygiène corporelle.
Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes d'abord au Congo-Brazzaville. Le principal opposant de Sassou Nguesso à la présidentielle, détecté positif au Covid-19, est décédé. Évacué d'urgence de Brazzaville hier, Guy Brice Parfait Kolela était apparu malade mais motivé dans une vidéo où il appelait ses partisans à voter. Entre-temps au Niger, la Cour constitutionnelle nigérienne déclare Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de la présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% des suffrages. L'opposant Mahamane Ousmane du RDR, Tchangi, recueille lui 44,34% des voix. Le taux de participation était de 62,81% selon les résultats définitifs du scrutin. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la côte est de l'Australie au cours du week-end ont fait déborder un barrage. Elles ont provoqué les pires inondations depuis un demi-siècle dans certaines régions, entraînant des évacuations de masse. Les services d'urgence ont ordonné aux habitants des zones basses de certaines parties de la ville de se mettre à l'abri en raison d'une situation pouvant menacer leur vie dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Constantin Nono-Lutula, ancien conseiller spécial du chef de l'État Mzé Laurent-Désiré Kabila en matière de sécurité. Il a été libéré de la prison de Makala après 20 ans d'incarcération qu'il juge injuste. Constantin Nono-Lutula démystifie l'art inique de l'ex-cour d'ordre militaire qui a conduit à sa condamnation avec d'autres compatriotes à la peine capitale. Dans cet entretien avec Jean-Désiré Kanyama, l'ancien conseiller spécial a exprimé sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'il a gracié et demande d'être rétabli dans ses droits. Suivez.
Constantin Nono-Lutula, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été libéré il y a quelques mois après 20 ans d'incarcération dans le procès d'assassinat de feu le président Laurent Désiré Kabila. Quel est le moral qui est le vôtre à ce moment et pourquoi avoir choisi seulement ce moment-ci pour parler?
Mon moral est au zénith dans la mesure où j'étais enfermé pendant 20 ans. Maintenant, je suis sorti, je me trouve au milieu des miens, de mon époux, de mes enfants, de mes amis, etc. Vous vous imaginez bien que le moral ne peut être que très bon.
Pourquoi avez-vous décidé de parler seulement maintenant?
D'abord, je n'aime pas les improvisations, première raison. Deuxième raison, je suis toujours malade jusqu'à présent. J'étais au lit, je ne pouvais pas trop bouger. Alors il a fallu attendre que je sois un mieux-être avant de parler. Voilà la raison de ces retards.
Dans votre lettre de gratitude au président de la République, vous qualifiez votre emprisonnement d'injuste. Pourquoi?
D'abord, c'est parce que je suis innocent. Deuxièmement, parce que le procès lui-même s'est fait dans des conditions non juridique, improvisé, et on sentait de bout en bout une certaine vengeance. Il appartient, dans ce cas, à ceux qui m'ont accusé de prouver que j'étais coupable. Ils ne l'ont pas fait, je suis innocent. Et dans ma conscience, du fond de moi-même, je suis innocent.
Qu'est-ce qui peut le prouver?
Parce que mes accusateurs, la com, n'a pas pu prouver ma culpabilité. Même les séances d'interrogatoire n'ont pas été clôturées. Je n'ai été reçu que pendant 15 minutes. Et c'était fini, on ne me recevra plus, on ne m'appellera plus jusqu'au verdict.
Et donc vous dénoncez encore ce procès?
C'est un procès injuste, manifestement. Un procès où qui n'est même pas justifié, qui n'est même pas motivé. C'était un procès à Bayrato, tout simplement irrégulier. Même par les conditions de son déroulement.
Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État?
Au chef de l'État, d'abord, je lui adresse mes remerciements les plus profonds. Parce que c'est un homme de Dieu. Non seulement il est le chef de l'État, mais c'est un homme de Dieu. Et c'est lui qui a eu le courage exceptionnel, malgré les pressions qui venaient de part d'autres, qui a eu vraiment la latitude, l'occasion, avec son pouvoir, de nous extirper du mouroir de la prison centrale de Makala, où nous moisissions pendant 20 ans. Vous voyez que le président de la République est en train d'instaurer un état de droit, et le restaurateur de l'état de droit ne peut pas accepter qu'il y ait des procès irréguliers, qu'il y ait des détentions arbitraires ou des séquestrations.
Vous demandez également que le procès soit repris. Vous êtes en train de démystifier le procès, donc il faut qu'il soit repris.
Je le démystifie, oui. Ça dépend si le peuple le réclame. Le procès peut être repris. Nous sommes tout simplement des répondants à ce procès. Nous avons été amnistiés, voyez-vous. Parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices, c'est le peuple, c'est la clameur publique qui réclame cela. Nous ne serons dans ce cas que des renseignants, parce que j'ai fait lapsus en disant que des répondants.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui s'était réellement passé au palais de marbre lors de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila?
Présentement, en ce moment-là, je n'étais pas là. Je me trouvais à un deuil du commandant, du feu commandant Lumbu qui avait perdu sa femme. Alors, mon directeur de cabinet adjoint d'alors, actuellement, monsieur le le ministre Justin Kalumba, qui m'a communiqué par téléphone qu'il y a des coups saccadés à la prison de la République et que après coup il y a un hélicoptère qui vient de survoler, qui atterrit et puis qui vient d'amener le corps, je ne sais où. Voilà. Et c'est moi, à partir du day où nous étions, c'est moi qui ai informé le feu Hérodia. C'est moi qui ai informé également l'ancien directeur de cabinet, M. Mbousse Falaï. C'est moi qui les ai informés. Je n'étais pas là. Comment voulez-vous que je décrive les conditions du déroulement de cet assassinat?
Mais ce n'est pas parce que vous avez informé que vous avez été arrêté. Vous ne pensez pas que ça peut être dû à ça?
Pas du tout. C'était une vengeance, tout simplement. Rien n'a été prouvé. Il ne suffit pas d'être conseiller spécial du chef de l'État, l'homme plus proche du chef de l'État. Et lorsqu'un chef de l'État est assassiné, en même temps, ipso facto, vous devenez coupable de par vos fonctions, de par votre présence autour du président de la République. Le président de la République a sa garde personnelle. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. La garde personnelle veille immédiatement autour du président de la République. Les conseillers spéciaux, l'administrateur général de l'ANR, etc., nous sommes des ceintures de sécurité en matière de renseignement. Nous ne sommes pas responsables de la ceinture immédiate du président.
Constantin Oloutoula, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
L'ancien conseiller spécial du président Mzé Laurent Désiré Kabila répondait aux questions de Jean-Désiré Kanyama. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Julien Nyamweni, coordination de Richard Kamunga. Merci de nous avoir suivis.